c'est good. Désolé, j'ai pas d'expat depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Shiz 94.3.
Dimanche midi à tous. Votre animateur à l'appareil, Jérémy Thibault, accompagné de ses deux chroniqueurs, donc François et Mathieu. Bonjour, messieurs.
Hello.
Bonjour.
Donc, on se retrouve encore pour notre rendez-vous hebdomadaire afin de parler de jeux vidéo, d'histoire, de livres, de jeux de société et autres. Et donc, nous allons commencer avec nos anecdotes. De mon côté, j'ai recommencé les parties de Donjons et Dragons. Donc, pour nos auditeurs qui ne nous connaissent pas, je suis animateur professionnel de Donjons et Dragons. Il s'agit de mon métier à temps plein. Et je fais donc des parties avec les plus jeunes et les moins jeunes, parfois des adultes, parfois des jeunes qui sont un peu plus en difficulté scolaire. Bref, je fais un peu de tout. J'ai un background en cinéma, je suis aussi réalisateur de films. Et donc, j'utilise tout cela afin de créer des parties enrichissantes avec un objectif pédagogique derrière. J'ai donc repris récemment les parties de Donjons et Dragons et je leur ai fait faire l'aventure, donc une aventure qui a été préécrite cette fois-ci, normalement je fais les miennes, qui est la mine de Phandalin, donc The Mines of Phandalver en anglais. Et je n'en reviens toujours pas d'à quel point cette aventure est compliquée lorsque tu commences la partie. C'est pratiquement impossible de ne pas tuer un de tes joueurs par accident. c'est juste presque pas possible, en fait.
Par accident?
Par accident. Ben oui, parce que mon but, ce n'est pas de les tuer. Ce sont des jeunes de 10-11 ans. Je crois qu'ils trouveraient ça dommage
c'est
de perdre
ça,
leur personnage.
C'est pas idéal.
Et donc, je suis obligé de diminuer la force des gobelins parce qu'en fait, l'histoire, l'aventure a été écrite pour qu'ils soient 3 aussi. C'est exactement la même affaire. Donc, quand tu commences l'aventure, il y a 4 gobelins, que t'en aies 3 ou 5 joueurs et que t'aies que des clérics ou que des voleurs, il y a 4 gobelins. Et si t'obtiens un 20, ben, tes joueurs ont à peu près une moyenne de quoi? 8 points de vie. Les gobelins frappent à peu près à 8 sur un crit. Ça part vite. Donc, c'est quand même assez marrant de voir à quel point ils disparaissent rapidement. Et donc, ils trouvent ça particulièrement rushant. Je leur ai dit que ça allait être un baptême du feu. Mais lorsque tu parviens à expliquer comme il faut aux joueurs quelles sont les attentes qu'il y a derrière la partie, généralement, ça passe un peu mieux. Et donc, ils n'ont pas trop été handicapés du fait que 3 de mes joueurs sont déjà morts alors que l'aventure n'en est qu'à sa 6e heure. Ça va vite.
Ouais, c'est un scénario assez old school. C'est plus brutal que les choses modernes.
Bon, en même temps, connaissais-tu le site Famous Last Words? Comme une compilation de toutes les fameuses dernières paroles que des gens disent dans des parties de jeux de rôle. Et il y en a un qu'il faut vraiment pas sous-estimer, c'est « Ah, c'est juste des gobelins!
» C'est effectivement de fameux derniers mots. Les gobelins, donc, il y a même une série au complet qui a été faite sur à quel point les gobelins sont pernicieux. Hein. On pense à toi, Goblin Slayer. Cette aventure, donc, pour l'instant, ne comporte que des gobelins et les joueurs se sont rendus compte d'à quel point c'est quand même assez violent.
C'est ça. Tout peut être fort si c'est bien joué.
Tout peut être fort si c'est bien joué et si c'est particulièrement chanceux. N'oublions pas qu'il y a des jets de dés et qu'il s'agit de chance. Si tes joueurs enchaînent les 1 et que toi t'enchaînes les 20, un gobelin peut tuer une aventure de niveau 3 avec suffisamment de sang et d'effort.
Chance!
Et de votre côté, messieurs?
Oui, ben moi, de mon côté, la semaine passée, au pub, on a eu des invités
de marque.
Je perds mes mots.
Un mois à fois.
Oui, c'est ça. Donc, les places où les jeunes vont pendant l'été. Un camp d'été, oui, merci. Des fois, je perds des mots vraiment faciles. Fait que oui, on a des jeunes d'un camp d'été, justement, à proximité. Et puis, J'ai eu dans ce groupe de jeunes, certains jeunes qui ne parlaient pas français. Oh. Donc j'avais jeunes qui parlaient en fait principalement espagnol, ah. Puis vaguement un petit peu d'anglais. Fait que maintenant que la communication a pas été facile parce que moi je ne parle pas espagnol. Donc là j'avais ce jeune là justement qui voulait vraiment apprendre le jeu puis qui a pris un jeu quand même pas complexe mais tu sais qui avait quand même quelques règles. Mm-hmm. Donc là faut que j'explique le jeu, il me baragouine de quoi en espagnol, en anglais espagnol. Puis là après ça t'as l'autre jeune que j'explique la règle, l'autre jeune essaye d'y expliquer après ça, d'y traduire, mais la jeune elle-même comprenait, avait un petit peu de difficulté à comprendre les règles. En tout cas, c'était toute qu'une aventure. Juste expliquer ce jeu-là, finalement, qu'il n'y avait pas tant de règles que ça. Beaucoup plus long que normalement, mais finalement, ils ont fini par pouvoir jouer au jeu.
C'était quoi le nom du jeu? Est-ce qu'ils ont aimé ça?
C'était Candy Island, je pense. En tout cas, c'est un jeu de bluff où on va s'attaquer en bateau avec des canons de bonbons. Puis, mais oui, je pense qu'ils ont apprécié quand même la partie.
Formidable. De ton côté, Mathieu?
Moi, je suis présentement en vacances et je reçois une couchsurfeuse du Luxembourg. Et étant une personne curieuse de nature, ça m'a renseigné sur les petites principautés de l'Europe, c'est-à-dire le Luxembourg, le Liechtenstein et l'Andorre. Mm-hmm. Et j'ai été vraiment étonné, en fait, d'apprendre que le Luxembourg est le dernier grand-duché.
Ah oui?
Du monde. Donc, le Luxembourg est un grand-duché. Le monarque du Luxembourg est un prince, un grand-duc, et non pas un roi. Puis c'est un État qui va vraiment être capable de survivre parce qu'ils sont flippés de bord au bon moment. T'sais. Mettons que ton voisin devient super belliqueux puis décide genre de dire que ça serait bien d'exterminer comme une espèce d'humain au complet là.
Ouais.
Vire-toi de bord, pars en exil. Puis quand tu vas finalement gagner la guerre contre le méchant,
ouais, le pas fin.
Ouais, ben ton pays sera pas annexé avec les grandes puissances autour.
Donc prenez bien note, chers auditeurs, si jamais cela vous arrive, vous savez quoi faire. Formidable, formidable. Et parlant d'annexion, justement, tu viens ici pour nous faire la partie 2 de ta chronique sur les jeux Civilisation. Ben, mais quel excellent segue que je viens de nous faire.
T'es un patineur extraordinaire. Ce sera pas tant la partie 2 que la partie au complet. Je vais juste commencer un peu plus tard, puis ça va bien aller. En fait, la première question là-dedans, c'est savoir qu'est-ce que la civilisation. Mm-hmm. Bon, c'est la première question. Il y a plusieurs définitions au concept de civilisation. D'une part, on va dire que la civilisation, c'est l'ensemble des progrès accomplis par une société donnée à un moment donné. D'autre part, on va y accoler des titres de noblesse, de civilité. Finalement, ça va devenir un argumentaire un peu colonialiste. Et finalement, on va en faire une synonyme de culture. Mais c'est des choses sur lesquelles je vais revenir. Donc, la civilisation en tant que telle, les plus anciennes civilisations connues, c'est les Sumères, l'Égyptien, la vallée de l'Indus, la Chine. Mm-hmm. Et les premiers critères, en fait, pour définir qu'un peuple est en état de civilisation, c'est d'avoir la présence de villes, d'avoir des spécialisations du travail, une concentration des surplus, une hiérarchisation, un État appliqué, un État en place. Et ensuite, de façon secondaire, on va avoir des gros travaux publics, des œuvres d'art monumentales, de l'écriture, de la connaissance scientifique, du commerce à longue distance. Et ça tombe bien, parce que c'est tous des choses qu'on retrouve dans le jeu Civilisation. Wow. Vous voyez comme les affaires sont bien faites.
C'est donc ben concept. On dirait que ça a été pensé.
On dirait que ça a été pensé. Donc, notre chronique commence en 1980. En Angleterre. On est en UK. Je vais juste ma petite feuille.
Je vais essayer de voir si je pourrais pas nous mettre une musique traditionnelle anglaise.
Ouais, let's go. Le jeu commence la chronique commence en 1980 sur un jeu de table qui s'appelle Civilisation, qui est fait par la compagnie Trifold. Ça, c'est le truc que j'aurais dû noter sur ma nouvelle feuille. Bref, en tout cas, Trifold, qui va devenir Gibson Games par la suite, c'est ça qui est plus important. Ouais, et puis Avalon Hill, aux États-Unis. Donc, le jeu de table Civilisation a tout ça d'intéressant que c'est un jeu de stratégie un peu comme les autres, mais la victoire se fait pas par la guerre en tant que telle. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est très long, 8 à 12 heures. Puis le gros nerf de ce jeu-là, en fait, c'est beaucoup une question d'échange. une question de commerce. Mm-hmm. C'est-à-dire que ben, tu vas faire des villes, tu vas t'étendre, ça va te permettre d'avoir plusieurs ressources. Et ces ressources-là, c'est des ressources de valeur variable de 1 à 9. Exemple, du blé, il va valoir 1, mais avec une valeur exponentielle. Donc, plus que tu as d'une certaine ressource, plus que tu fais des points. Mm-hmm. Donc, exemple, un blé va valoir 1 point, mais 2 blés vont en valoir 4 et 3 blés vont en valoir 9. Mm-hmm. Donc, tu vas vouloir aller chercher un monopole de ressources. Et dans ces échanges-là, et c'est là que ça devient tricky, c'est que quand tu vas faire des échanges avec les autres, il y a des clauses que tu es obligé de suivre, mais tu peux tricher. Et tu peux décider d'envoyer des calamités à tes ennemis. Fait que tu peux dire, bon, ben, je t'envoie genre du blé, mais j'ai mis des remords dans le blé. Fait que tu vas avoir une belle petite pandémie. Tu sais. Oui, c'est ça. Et c'est là que le jeu devient intéressant. Et pour gagner ce jeu-là, il y a une seule façon, c'est la victoire scientifique. Donc, tu as une frise de technologie et il y a des prérequis pour monter sur ta technologie. Et celui qui gagne, c'est le premier qui arrive au bout de ta technologie. Donc, on est en 80, on est dans les grands âges des jeux de table, les jeux vidéo commencent. C'est Heartland Trefoiled, la compagnie dont je parlais, qui a ouvert le jeu en premier. Heartland Trefoiled, comme Avalon Games, vont être spécialisés dans les jeux de guerre, les War Games. Donc, beaucoup sur micro-ordinateurs, beaucoup sur DOS. Et il va avoir un Microprose, qui est fondé à peu près en même temps, en fait, début 80, qui, lui, va se... Microprose, de Sid Meier, va se spécialiser, en fait, dans les jeux d'avion. Ils vont faire vraiment beaucoup, beaucoup de jeux d'avion. Jusqu'à ce qu'on tombe dans le virage des années 90. Et là, à ce moment-là, en 91, on va sortir Civilization. Civilization qui est grandement basée, vous l'aurez imaginé, sur le jeu de table Civilization. Donc, le jeu de table Civilization, le jeu de vidéo Civilization, sorti par Microprose en 91.
Donc, lorsqu'on sort le jeu vidéo, là, on est dans les années 91, on parle de quelle console de
jeu? On est sur DOS, principalement. Et puis, on va avoir une extension qui va être faite pour macOS. Une version faite pour macOS, là, mais on est principalement sur DOS. DOS, Amiga,
Donc, on est sur de l'ordinateur.
Oui, c'est ça. On a DOS, Amiga 500, Atari ST, Amiga 1200, puis Super Nintendo. Super Nintendo, ça va être sur le tard de Civilization.
Ouais, hein. Ben c'est ça que je me disais.
Ouais, c'est en 94, donc on commence à être un peu loin. Mm-hmm. Donc, bref, 91, on sort ça. C'est vraiment une adaptation assez typique, quoique on va avoir des... Ouais, c'est ça. Donc, ça va être... Il y a deux victoires, soit la victoire militaire, soit la victoire scientifique. Donc, on reste vraiment proche du jeu de table. Bien que dans le jeu de table, la victoire militaire n'arrive pas, mais bon, on est sur un jeu de stratégie,
un
peu de contact.
Vidéo, on se dit c'est, des jeunes, ils aiment la violence.
Exactement. Donc, on a une vue par-dessus... c'est des cases en carré. On va faire une ville. Les villes vont permettre d'avoir des ressources. Les ressources, on va pouvoir les accumuler. On va pouvoir faire des échanges. Puis on va pouvoir faire évoluer sa civilisation avec ça. Il y a deux façons de gagner, militaire, scientifique, je vous l'ai bien dit. Dans ce jeu-là, les victoires scientifiques, c'est de se rendre sur Alpha Centauri. En fait, dans la galaxie d'Alpha Centauri, pour y bâtir une nouvelle civilisation. Donc, on va faire des extensions, on va faire apparaître le multijoueur en 95. Ce jeu-là va avoir un gros succès. On va en faire une version open source en 96 avec FreeCiv. Entre-temps, Spectrum va acheter Microprose en 93 en promettant à Sid Meier qu'on va garder les studios à part puis que Sid Meier va avoir son autonomie. On va prendre Civilization 1 puis on va l'amener jusqu'à son bout, jusqu'à ce que Sid Meier découvre la bureaucratie. La bureaucratie, le moyen le plus rationnel que l'on connaisse pour exercer un contrôle impératif sur des êtres humains. Max Weber, 1925. Et donc, grâce aux beaux accès de bureaucratie, on va venir annexer, finalement, en 96, Spectrum et Microprose. Spectrum
Holobyte. Si vous avez écouté au début de l'émission.
Et juste après la sortie de Civilization 2, en fait. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va aller fonder Firaxis. Civilization 2, donc, on est maintenant en 96. Donc, Civilization 2, c'est vraiment ça qui va... qui va être un peu le parangon du jeu 4X. Je vous ai pas encore expliqué c'est quoi le 4X, parce que c'est un terme qui arrive en 93, en fait. C'est Alan Emmerich qui va développer ça avec le jeu Master of Orion. Donc, le 4X, ça veut dire l'exploration, c'est-à-dire qu'on va envoyer des éclaireurs pour voir le terrain. L'expansion, c'est-à-dire qu'on va construire des villes pour aller chercher des ressources. L'exploitation, on va exploiter ces ressources-là, en faire le commerce. Et l'extermination, c'est-à-dire soit attaquer, soit éliminer ses ennemis, que ce soit de façon militaire ou d'une autre. Et Emmerich va étendre le concept de jeu 4X à un jeu de 5X, quand il va arriver en 2002 avec Master of Orion 3. Et le 5X, ça serait l'expérience, en fait. Ça va être l'expérience interne au jeu. dans Civilization, par exemple, lorsqu'on va changer de gouvernement, il va y avoir un moment d'anarchie.
Ouais.
Donc, là où je voulais m'en aller avec toute cette chronique-ci, et dont j'ai perdu un peu le fil au tout début, et que je viens vous retisser ici, c'est qu'il y a un paradoxe à la civilisation. C'est-à-dire que la civilisation se fait nécessairement violence à elle-même. C'est une évolution technique, c'est une évolution culturelle, c'est une évolution sociale, mais qui vient remplacer ce qu'il y avait là avant. Et qui est nécessairement frein. C'est-à-dire qu'au début de civilisation, au début du jeu, une des premières options que vous avez découvert le mysticisme, la religion est sans contredit le premier et le plus utile frein de l'humanité. Le frein de l'humanité. C'est le premier ressort de la civilisation. Victor Riquetti de Mirabeau, 1756, l'ami des hommes. Donc, on parle vraiment d'un frein. C'est-à-dire que Townby va bien le décrire. La civilisation, en fait, la civilisation, c'est l'état de la société où une minorité de la population est libérée de tout travail, n'a pas besoin de travailler. C'est-à-dire que ça va être des gens d'État, ça va être des gens d'Église qui ne travaillent pas, qui concentrent les ressources, qui gèrent en tant que tels, mais sans plus. Mm-hmm. Donc, ces gens ne travaillent pas là, d'où l'idée que la religion va être le premier frein et le premier ressort de la civilisation. Il y a ça qui est là ici. Donc, les progrès accomplis. On parle des progrès accomplis, la première définition que je vous avais nommée. Ensuite, il y a l'idée de noblesse et de civilité. C'est-à-dire que ces personnes-là qui sont en état de pouvoir, eux vont nommer les normes sociales. Mm-hmm. C'est eux qui vont décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire. Donc, c'est une minorité qui va clamer à une majorité c'est quoi les bonnes mœurs, c'est quoi être civil. Et ça, en quelque sorte, c'est de se faire violence en tant qu'espèce, en tant qu'animal, en fait. On vient freiner ces instincts-là qui sont purement homo sapiens, qui sont purement mm-hmm. humains. Donc, on va continuer, on revient en 96. Et en 96 sort Civilization 2. Civilization 2 va être classé comme étant le parangon, en fait, comme l'exemple type des jeux 4X.
Modèle.
C'est encore des carrés. Par contre, on passe avec une vue isométrique, donc on a un sentiment de 3D. On va rajouter en fait beaucoup d'options de personnalisation du jeu, pis c'est ça qui va rendre le jeu intéressant, pis c'est ça qui va faire que ça va devenir bien intéressant. On va avoir des personnalisations des planètes. À chaque civilisation, on va avoir et un leader homme et un leader femme. Bel essai. Il y en a quelques-unes qui ont trouvé comme aucun personnage historique, donc on va aller chercher des personnages légendaires pour les femmes. Là. Mm-hmm. Donc on va aller chercher des personnages légendaires ou divins, sans doute parce que, bon, des civilisations de l'Antiquité, on n'avait pas d'exemple. Là, mais au moins, tu sais, il y a cet effort-là qui est fait, qui est vraiment intéressant. On va rentrer des gouvernements. Quand on va changer des gouvernements, on va avoir un moment d'anarchie. Vous venez de découvrir le socialisme. Depuis Descartes jusqu'à la formation de la République française, nous avons vu la raison humaine se former lentement par les progrès naturels de la civilisation. La superstition s'emparer d'elle pour la corrompre et le despotisme dégrader et engourdir les esprits sous le poids de la crainte et du malheur. Nicolas de Condorcet, 1795.
Cool.
On est en pleine Révolution française. Condorcet, c'est lui qui va faire le principe de Condorcet. C'est-à-dire, c'est quoi les compromis qu'on peut avoir pour faire des élections, pour avoir une meilleure représentativité possible. Donc, c'est vraiment un démocrate. Mais on a cette violence-là dans la Révolution française. Même si on amène la modernité, mm-hmm. même si on se dit, OK, on va aller vers plus d'humanité, on va aller vers une démocratie, la Première République est immensément violente. Mm-hmm. Et pourtant, c'est un acte de civilisation. Et pourtant. Donc, voilà, il y a ça. Et donc, à chaque fois qu'on va changer de gouvernement, on va avoir une période d'anarchie dans le jeu Civilisation. Donc, ce jeu-là va vraiment s'installer. On va refaire d'autres. La version FreeCiv que je vous parlais tout à l'heure va inclure les nouvelles réglementations de Civilization 2. Puis, c'est vraiment, il va y avoir un gros engouement pour ce jeu-là. À la sortie du jeu, Spectrum Holobyte va fusionner avec Microprose. Sid Meier veut rester maître de ses affaires. Il va partir. Avec Jeff Briggs, il va aller fonder Firaxis. Et puis, Avalon Hills, dont je vous parlais tout à l'heure, vont vouloir sortir une adaptation de jeux vidéo de leur jeu Civilization. Pour des questions de droit, puis pour être sûr qu'on soit eux, ils vont appeler ça Avalon's Hill Civilization. Donc, la civilisation de Avalon Hill, qui sort en 96 aussi. Donc, on est plus proche du jeu Civilization. Vraiment, c'est le jeu Civilization carrément. Là. Donc, on revient aux idées d'échange, puis de tricher les échanges, puis de vraiment l'idée, la victoire est scientifique. Voilà. Donc, Avec Firaxis, Sid Meier va se mettre au développement du prochain Civilization. Entre-temps, il y a beaucoup de choses qui changent dans les environs du Wargame, en fait. Donc, pour être capable de bien sortir Civilization 3, Firaxis, Sid Meier vont aller acheter les droits de Civilization à Heartland Trefoil. Comme ça, ils vont pouvoir être tranquilles. La même année, en 97, Wizard of the Coast va acheter à Avalon Hill. Ensuite, en 98, Hasbro va acheter Microprose, qui avait été vendu à Spectrum Mobile.
Ça va brasser pas mal.
Oh, oui, ça brasse, c'est un gros moment. On est fin 90, début 2000. Tout le monde veut avoir sa part, tout le monde veut devenir hégémonique.
Puis on est juste avant le boom technologique aussi.
Exactement. Il n'y a pas un crash pour rien. Donc Heartland Trefold, on va acheter les droits. Wizard of Coast qui va acheter Avalon Hill. Hasbro va acheter Microprose. Hasbro va acheter Wizard of the Coast. Donc, ça ramasse avec à peu près l'intégrale. Et Infogram va acheter Hasbro.
Infogram.
Ouais, Infogram. L'affaire, c'est que Infogram est devenu ski un peu parce qu'à ces moments-là, c'était big. Puis ils se sont dit, nous autres, on va être les plus big, puis ils vont acheter à peu près tout ce qui existe. Mm-hmm. Tu sais, s'il y a un petit logo en bas qui dit PG jeux vidéo, là, ils vont l'acheter. Mais à un point tel que les gens vont perdre confiance en Infogram, la valeur de l'action va dégringoler complètement. Puis après avoir acheté Atari, ben Infogram va se renommer Atari par la suite quand ils vont se réorganiser parce qu'ils vont dire bon, on va prendre la marque de commerce d'Atari puis on va être capable de se débrouiller avec ça.
Parce que lorsque les gens perdent confiance, il faut simplement changer son nom.
Vous avez tout compris.
Et on te regarde, Meta.
Et donc, Sid Meier, Firaxis, Jeff Briggs vont passer à travers tout ça avec Firaxis, puis ils vont être capables de rester les bonnes selles en selle et ils vont sortir Civilization 3 en 2001. Civilization 3, c'est vraiment le jeu qui, c'est le jeu de la série qui fait que le jeu de vidéo Civilization devient un jeu à part entière. On se détache complètement du jeu de table. On va avoir cinq façons de gagner. On va pouvoir gagner par la conquête, par le scientifique, encore une fois. Par contre, maintenant, on va rentrer le côté politique, le côté culturel et le côté territorial. Donc, tu peux être élu maître du monde et tu peux... et tu peux influencer culturellement tous tes voisins pour qu'ils te considèrent comme étant maître du monde.
Ouais.
Et tu peux également conquérir le 2/3 du territoire et devenir maître du monde. OK, parfait. On va rajouter des caractéristiques pour les civilisations, on va rajouter des unités spéciales pour les civilisations, des zones d'influence, des âges d'or, avoir une civilisation, une civilisation pour avoir un âge d'or par partie, des ressources stratégiques, des ressources de luxe. Les fleuves vont finalement être entre deux cases au lieu d'occuper une case complète. On va se mettre à composer des musiques. On va faire beaucoup de reconstitutions de musiques anciennes pour la Civilization 3. Oui. C'est une trame sonore de Mark Kromer qui est assez intéressante. Le son n'a pas super bien vieilli. On reste dans les moyens techniques de l'époque.
Mais
tout de même, vraiment, pour la musique primitive, on a vraiment quelque chose de primitif, juste ça, sans aucun... on a vraiment quelque chose de très intéressant.
Est-ce que c'est aussi dans celui-là que Gandhi commence à menacer tout le monde avec l'arme nucléaire?
Merci de me ramener à ça. je vais y revenir à la fin, en fait.
OK, c'est bon.
Mais non, ça tombe vraiment dès le tout début.
OK.
Ça tombe vraiment dès le tout début dans Civilization 1. Ce qui est arrivé, c'est que... Ben, le monde dit que c'est une erreur de programmation, mais moi, je pense vraiment qu'il y avait un fan de Al Yankovic là, dans le... pour ceux que vous avez pas vu, c'est aller voir UHF de Al Yankovic, Yankovic, mais ben quoi qu'il y a peut-être un, en tout cas peu importe. Al Yankovic, UHF comme la station de TV là, c'est un bijou d'humour absurde là, c'est une merveille qui date de 89, dans lequel il y a Gandhi 2. C'est fini, monsieur passif-agressif. Vous irez voir ça sur YouTube. Mais bref, c'est une erreur de programmation, c'est-à-dire que le niveau de pacificité du personnage est de 0 à 255. Mm-hmm. Peut-être que je me trompe de chiffre. Et puis, quand on va développer la démocratie, on va descendre en agressivité de 2 points. L'affaire, c'est qu'en partant de 1 à moins 1, Gandhi se ramasse à 255. et c'est pour ça qu'il pousse des lasers dans les yeux et qu'il est capable de lancer des bombes nucléaires avec ses mains. C'est ça qui arrive.
C'est parce que c'était le plus pacifique, il devient le plus agressif au moment où il développe la démocratie.
Je vous l'ai dit, c'est le paradoxe de la civilisation. La civilisation se fait violence à elle-même, nécessairement. C'est ça qui arrive.
T'essaies de faire le compromis.
Oui, moi, c'est faire. Moi, oui, ben oui, mais c'est sûr que si tu pars à eux.
On vient de développer le nucléaire, let's go!
Let's go! Donc, bref. On est en 2001, le jeu de Civilization 3 va sortir, on va faire des extensions, on va compléter le jeu. Et puis, on va sortir Civilization 4 en 2005. Civilization 4 ressemble vraiment beaucoup à Civilization 3, en fait. Mm-hmm. Les graphiques sont meilleurs, bien entendu. Mais autrement, il n'y a pas de différence de gameplay particulièrement. On garde les mêmes objectifs, les cases carrées.
Tout est là.
Tout est là, là. Je veux dire, il n'y a pas de différence. Par contre, là où Civilization 4 va particulièrement se démarquer, c'est par sa trame sonore. C'est-à-dire que c'est le premier moment où on va aller chercher des pièces connues de toutes les époques. On va voir de la musique médiévale, de la Renaissance, de l'époque baroque, de l'époque classique, de l'époque romantique, de l'époque minimaliste et de l'époque contemporaine. Et en avançant dans le jeu, les musiques vont avancer aussi. Mm-hmm. On va avoir du Shostakovich, du Beethoven, du Mozart. Vraiment, on part d'un bout à l'autre. Il y a du Chopin. Et il y a aussi, surtout, particulièrement, la chanson-thème. En fait, de Civilization 4 que tout le monde connaît sans doute. Si tu veux nous la mettre un moment donné,
oui.
C'est Baba Yetou en fait qui a été. J'ai même pas le compositeur, c'est. Mais en fait, c'est une reprise du Notre Père en Swahili. Donc cette chanson-là va passer un peu en dessous du radar au début. C'est-à-dire qu'elle va gagner. Le jeu sort en 2005. En 2006, elle va gagner la meilleure. Best Original Vocal Song par le Game Audio Network Guild.
Donc la meilleure musique originale.
La meilleure musique vocale originale par la Guilde des jeux vidéo, donc l'année suivante. Puis ça va rester comme ça. Jusqu'à ce qu'en 2009, elle soit utilisée pour les jeux mondiaux. Exactement.
Donc celle-là.
Donc ça, c'est Notre Père en Swahili. Et donc, elle va être utilisée pour les jeux mondiaux en 2009. En 2010, ça va gagner la meilleure musique du monde à la compétition internationale d'écriture de chansons. Elle va être finaliste comme meilleure musique du monde à la compétition d'écriture de chansons de John Lennon. Elle va être nommée comme meilleure musique du monde aux compétitions d'écriture de chansons des États-Unis.
Tout le monde est d'accord qu'elle est.
Tout le monde est d'accord que c'est une merveille. En 2011, elle va gagner la meilleure musique du monde de la musique indépendante. Elle va gagner aussi la meilleure utilisation dans un média, TV, radio ou jeu vidéo. Elle va gagner aussi en 2011 le Grammy pour le meilleur arrangement musical accompagnant une chorale. Et en 2016, elle va gagner le record Guinness, la première chanson de jeu vidéo à avoir gagné un Grammy. Donc on est vraiment sur un couronnement de bord en bord.
Rien de moins.
Rien de moins. Donc à ce moment-là, Firaxis est sans doute à son apogée. On a établi la franchise. Elle est là. Elle est solide. On s'est établi sur le plan culturel. Sur Internet commencent à apparaître des mimes de Gandhi. On commence à utiliser la chanson de Baba Yetou. Ça va bien. Et à ce moment-là, Take-Two Interactive va acheter Firaxis. Yes! Il me reste donc... je vais faire ça très rapidement.
On va encore avoir du temps après la pause, mais une fois que la pause sera passée, je vous referai jouer Baba Yetou afin que vous puissiez vous imprégner de sa mélodie.
Il va rester... on est presque fini.
Ben oui.
Fait que est-ce qu'on part en pause tout de suite?
Non, on continue.
Parfait. Donc, Take-Two Interactive va acheter Firaxis, va fusionner avec Pop Top Games en promettant à Sid Meier's qu'il va rester le boss. Comme de fait, il va rester le boss. On va fusionner les deux studios. Jeff Briggs va partir ailleurs. Et on va se mettre au développement de Civilization 5. Et c'est vraiment... En fait, c'est un nouveau changement complètement à Civilization 5. C'est aussi important dans la franchise que Civilization 3.
Qui a quand même fait des gros changements.
Qui a fait des gros changements. Là. Mais Civilization 5, on va changer deux éléments majeurs. D'une part, la configuration de la carte et d'autre part, l'utilisation des ressources militaires. C'est une citation après la pause?
Ouais, fais-nous une citation avant qu'on parte à la pause.
Non, j'en ai pas là.
Ma citation sera, malheureusement, on ne peut pas avoir des citations pour tout. Jérémy Thibault, 2022.
C'est excellent.
Depuis 25 ans, nous, on est passé à autre chose.
Ah yeah.
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
Écoutez toujours des Kiwi Dinners à Chiz 94.3.
Quel délice que cette musique multiple fois couronnée. On peut donc continuer sur nos discussions civiles, sur la civilisation.
Comme j'aime tes transitions. Et on va continuer et terminer. Donc, on a vu les critères de civilisation dans la civilisation. On a vu la présence de ville. On a vu la spécialisation du travail. C'est-à-dire que dans une ville, quand on va construire des bâtiments, on va être capable de prendre des citoyens et des attitrés à ce bâtiment-là. On va avoir une concentration des surplus, on va pouvoir faire du commerce avec les autres, on va avoir une hiérarchie dans l'homme d'État qu'on a, et on va avoir un État qui va s'installer par les gouvernements qu'on va choisir. Donc, arrive Civilization 5. On va développer avec Pop Top, on va développer un nouveau jeu. Et là, il y a vraiment un nouveau gap qui se fait dans le jeu. D'une part, la carte, la carte matricielle, le plateau de jeu, va partir de carrés à des hexagones. Ça, évidemment, ça change énormément la dynamique de jeu parce qu'on peut aller en diagonale, on peut aller d'un côté et dans l'autre. D'ailleurs, s'il y a un développeur ici qui entend développer un genre de SimCity 4 avec des hexagones, s'il vous plaît. En tout cas, peu importe.
On est partant, faites-le,
s'il vous plaît. Et on va aussi enlever l'empilement des unités. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait prendre des unités militaires, en mettre autant qu'on voulait sur une case. Maintenant, ça ne sera plus le cas. On va avoir seulement une unité par case. On va introduire les cités-états, on va introduire le concept de tourisme qui va permettre d'influencer les autres civilisations pour gagner culturellement parlant. On va instaurer les points de vie des villes, donc les points de vie des villes qui vont monter quand on va augmenter des bâtiments, quand on va augmenter les villes. Les doctrines sociales aussi qui vont permettre d'avoir une branche dans laquelle on va se développer pour tweaker, pour augmenter notre... peaufiner notre civilisation. Et avec les expansions, on va ramener la religion, on va ramener les espions, on va ramener les congrès, les idéologies. Et à la suite de Civilization 5, on va faire Beyond Earth, qui va être un peu sous-estimé, mais que je trouve quand même assez intéressant, qui est une reprise de Alpha Centauri. C'est-à-dire que dans la grande ligne de temps de Civilization, on va avoir au début Civilization, le jeu de table, qui commence en... qui est comme de l'âge de l'âge du bronze, l'âge du fer. Ensuite, on va avoir Civilization, le jeu vidéo, qui va partir de l'âge du bronze, l'âge du fer, jusqu'à l'âge postmoderne. On va avoir précisément colonisation, en fait, parce que qui se passe en Amérique en 1492. Et puis, on va avoir Beyond Earth qui se trouve après. Parce qu'il y a ça aussi dans le concept de civilisation. On l'a soulevé un peu tout à l'heure, mais il y a l'idée d'apporter la civilisation à quelqu'un qui n'a pas encore cette civilité-là et cette noblesse que nous, on a jugé qui était civile. Et suite à ça, on va développer aussi, au 20e siècle, en fait, le concept de culture civilisationnelle. C'est-à-dire qu'on va se mettre à utiliser le terme civilisation un peu comme un synonyme à la culture. Et par le fait même, en fait, on va mettre à associer, c'est-à-dire que la civilisation va être le plus haut niveau, la plus grande subdivision humaine à laquelle on peut se rattacher. Donc, c'est vraiment une très question culturelle. Et dans civilisation, on va avoir justement ces victoires-là qui sont culturelles. Donc, Civilization 5 va faire un bon succès. On est en 2010. On va faire Beyond Earth entre les deux. On va faire Civilization 6 en 2016, dans lequel on va rajouter des unités religieuses. C'est-à-dire qu'on n'aura plus juste des missionnaires qui vont pouvoir propager notre religion, mais vraiment, on va pouvoir avoir une victoire religieuse à la méthode un peu militaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des unités, des apôtres qui vont pouvoir se battre directement contre les autres unités pour étendre cette religion-là. On va avoir les quartiers spécialisés. Donc, tous les bâtiments qu'on avait avant qui me permettaient de mettre des citoyens spécialisés dedans, on va devoir construire un quartier sur une des cases hexagonales qu'on a. Mais une fois que le quartier est construit, il reste là. Il y en a qui trouvent que ça fait un peu réaliste parce que construire à l'intérieur de la ville, pareil comme empiler les unités, normalement, pour avoir plusieurs hommes sur le terrain. Par contre, du côté stratégique, vraiment purement, ça apporte un jeu complètement différent. Parce que quand tu prévois le développement de ta ville, il faut que tu prévois vraiment d'avance. Même chose, les merveilles ne sont plus dans le centre-ville, sont sur une case de terrain. Donc, évidemment, il faut avoir une vision à très long terme.
Oui, t'es en moins 600, il faut que tu réfléchisses à vouloir se trouver tes cases lorsque tu vas être en 1500.
Ouais. Exactement. Et puis, il y a un point aussi qui est là tout au long de la série, l'idée de pollution, qui, dans le Civilization 6, prend une importance un peu plus grande parce que les eaux montent. Donc, si t'es sur la côte, il y a des terrains que tu vas perdre puis que tu ne pourras plus utiliser. Donc, c'est important à noter ça.
C'est ça, exact. Dépenser trop de charbon va polluer. Puis si tu fais la transition nucléaire, généralement, c'est le moment où les eaux vont moins monter parce que tu commences à rétablir la chose. D'ailleurs, soit dit en passant, le nucléaire est l'énergie la plus propre et la plus sécuritaire malgré ce qu'on peut penser.
Merci.
Je voulais juste faire mon pion.
Ça va. Quartier spécialisé, on va avoir des négociants, on va installer les gouverneurs, et là, on revient à l'idée du 5X, en fait. 5X, qui est l'expérience. Donc, l'expérience, c'est à la fois... ces soulèvements-là qu'on va vivre de la part de la population, s'il y a un ennui ou s'il y a un changement de gouvernement, mais aussi la micro-gestion, la délégation de pouvoir qu'on va faire, en fait. Si on a des unités automatisées, par exemple, ou si on a une gestion automatisée d'une ville, ça va être dans le 5X que Emmerich parlait, dans le côté expérience. On va avoir aussi l'environnement, des points de diplomatie, et on va avoir encore une victoire diplomatique qu'on avait avant, mais au lieu de que ce soit un vote de l'Assemblée de l'ONU, de l'Assemblée de toutes les civilisations, c'est plus des coups qu'on va faire un après l'autre qui vont nous permettre de gagner des points et de tranquillement prendre le pouvoir. Donc, tout ça. Civilisation. Du jeu de table, au jeu vidéo, au concept de civilisation, on va vraiment triturer le jeu, en fait. C'est-à-dire que civilisation, le jeu vidéo... puis une affaire que je dois dire, en 2018, en fait, Gibson Games, dans Arlan Treffel, que je parlais tantôt, qui va devenir Gibson Games, a réédité Le premier Civilization de 80.
Ah ouais?
Ouais, donc il y a une réédition qui a été faite en 2018. Et puis il y a un autre jeu aussi qui a fait, qui est une nouvelle Aube, qui est vraiment intéressant. Moi, j'allais chez moi, jeu de table de Civilization, qui est agréable parce qu'il est très rapide. Mm-hmm. Étonnamment, là, c'est comme 25 minutes par joueur, tu fais une action, tu passes le jeu, tu fais une action, tu passes le jeu. Donc ça, pour une game d'une demi-heure par joueur, là, 20-25 minutes.
Ouais, parce qu'on l'a pas mentionné aux auditeurs, mais une partie de Civilization, là, particulièrement le 6, c'est particulièrement long. Là. Vous ça. Faites pas ça en une journée.
Non.
C'est ça, là. On n'est même pas dans le Monopoly qui dure longtemps. Là. C'est une coche d'après.
C'est une coche d'après, oui, effectivement.
Puis ça, c'est même quand tu joues en mode rapide, hein, la vitesse en ligne qui est de 250 tours au lieu de 500. Là, on est en x2.
Oui, c'est ça. Et donc, cette civilisation-là, ce jeu de civilisation-là va vraiment s'éloigner complètement du jeu de table d'originel, se trouver lui-même, évoluer lui-même, à un point tel où on ne reconnaît plus le jeu de table originel. Et il y a ça qui est fantastique et addictif dans ce jeu-là, c'est-à-dire que tu joues. C'est pas, t'sais, on va dire que c'est un jeu qui est historique, c'est pas tant, c'est comme plus, j'ai vu une expression dans une BD, c'est comme plus un jeu Lego, en fait. T'as plein de petits morceaux d'historique, puis t'es montes partout, puis t'es montes ensemble, mais tant que tu vas pas voir le Civilopédia, tant que tu vas pas voir comme l'information que t'as à l'intérieur du jeu, t'apprendras pas vraiment grand chose d'historique. Par contre, à la seconde où c'est que t'es curieux, puis que tu prends ces éléments-là, que tu vas les chercher, tu vas pouvoir apprendre vraiment énormément de choses. Mais il y a une violence inhérente au jeu de civilisation qui arrive à tout joueur quand ça fait 6h30 que tu joues, qui est rendu 4h15 du matin, que tu travailles à 8h puis tu te dis nah, juste un tour de plus.
Juste un tour de plus.
Juste un épisode de plus. 5 minutes de plus, maman.
Ouais, là, un tour de plus dans Civilization, effectivement, c'est un des jeux le pire pour ça. Il y a tout le temps de quoi que tu veux qu'il arrive, là, qui s'en vient.
Ah ben oui.
Et tu peux perdre 2 heures à faire un tour de plus. Là.
Non, c'est ça. C'est un jeu exceptionnel. J'invite toute personne qui aime un peu les jeux de stratégie à se diriger vers ça. C'est vraiment un jeu 4X, donc c'est-à-dire que ça va être un peu un jeu de stratégie, mais toute cette micro-gestion-là, tout cet aspect de discussion avec les autres, bref, les 4X va vraiment faire un jeu à part entière.
C'est un jeu excellent.
Ouais.
À noter d'ailleurs que les jeux Civilization sont accessibles sur Steam. Ils ne sont actuellement pas en rabais, à moins que vous achetiez l'énorme bundle. Donc, en ce moment, ils sont à 80$ et quelques. Mais gardez en tête...
Ceci dit, les vieux sont en open source maintenant, parce que ça fait assez longtemps.
Oh.
Donc, si vous voulez, sur Abandonware, vous allez être capable de les avoir, Civilization 2, pas mal au complet. Les Free Civ, là, que je vous parlais, les open source sont encore disponibles. Puis Civilization 3, je suis pas sûr qu'il soit, parce que c'est 20 ans. Là,
ouais.
Le 3 est sorti en 2005, c'est ça que je disais tantôt?
Dans 3 ans.
Donc ça s'en vient bientôt. Ouais. Là, on va pouvoir avoir Civilization 3, qui est quand même assez bien là, en open source bientôt. Mm-hmm. Là. Mais jetez-vous là-dessus, c'est un genre de jeu qui est vraiment intéressant. Ouais. Master of Orion qu'on a parlé, il y a plein d'autres jeux comme ça, là, Stellaris et compagnie. Donc vraiment, c'est un monde à part entière.
Et il va y avoir les soldes de retour à l'école dans les prochains mois. Donc gardez votre portefeuille bien garni pour ce moment. Je sais que le mien va avoir très mal. Avais-tu terminé ta chronique?
J'ai terminé. Il y a une dernière chose à dire. Quand on parle de parallèle entre civilisation et culture, je vous dirais que chaque culture qui s'éteint, c'est une petite civilisation qui meurt.
Oh.
C'est dommage.
C'est tout beau comment tu parles,
merci.
Mathieu.
Merci.
Et donc, on parlait de son origine, des jeux tables jusqu'aux jeux vidéo. Eh bien, nous, on va retourner au point originel, donc au tout début de toute chose, en allant parler avec François, bien de jeux de table.
Effectivement. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de comment expliquer un jeu. Parce que, dans le fond, il y a beaucoup de gens qui ont à expliquer des jeux aux gens autour de soi.
Ben, c'est un métier, au
c'est
final.
Ça. Ben oui, ben, effectivement. Là, moi, je fais ça professionnellement. C'est ça. Puis, j'ai eu une formation à ce niveau. Là. Donc, il y a des choses qu'on peut faire pour nous aider à mieux expliquer un jeu. Surtout si vous êtes dans un cas comme moi, où souvent vous êtes dans un contexte où les gens autour de vous sont moins motivés que vous pour les jeux que vous avez. Mais c'est important de savoir bien les expliquer pour qu'il y ait envie de rejouer. Mm-hmm. Donc, après, par la suite. Fait que, pour commencer, en fait, avant même de commencer mon premier point de comment qu'on fait pour expliquer un jeu, j'y vais avec le point zéro. Il faut apprendre le jeu.
C'est ça.
J'ai entendu des histoires de gens, justement, là, tu t'assois à la table avec les gens, puis tu lis les règles en même temps que les invités sont là autour de la table. C'est pas l'expérience la plus agréable pour les gens en général. Je dirais que si votre groupe d'amis, vous aimez ça faire ça de même, vous avez le droit, là, tout est possible. Mais je dirais que de manière générale, les gens aiment pas ça, vous voir, vous regarder apprendre un jeu. En fait, c'est bien de prendre le temps avant, tu sais, potentiellement d'utiliser des ressources. Là, en ce moment, il y a beaucoup de ressources sur Internet, là, avec YouTube, mm-hmm. des tutoriels de comment faire le jeu. Fait que première étape, on apprend bien le jeu. Donc, c'est pas grave s'il faut référer certains détails dans le jeu, mais au moins comprendre le feeling général, quitte même à faire quelques tours nous-mêmes avant, tout seul, juste pour vérifier à quel point il fonctionne. Ça va faire que, surtout si le jeu est plus compliqué, puis surtout si les gens à qui vous expliquez le jeu, c'est pas des habitués des jeux de société, mais c'est important de bien maîtriser son jeu.
C'est certain que si tu passes une heure à expliquer les règles à tes amis, puis qu'ensuite tes amis n'ont pas compris, puis ils essayent de jouer, puis on comprend pas les règles, ben probablement que la prochaine fois que vous allez faire un party jeu de société chez vous, ils voudront pas jouer à ce jeu-là, même s'il est excellent.
Ben c'est ça, parce que s'ils ont mal compris, effectivement, ou ils vont pas avoir envie d'apprendre des nouveaux jeux aussi, parce que ça arrive souvent que les fans de jeux de société, on a tendance à s'en procurer des nouveaux régulièrement.
Non.
Donc, si on veut expliquer des nouveaux jeux souvent, ben il faut apprendre à bien expliquer ces jeux-là. Donc, ma première étape, en fait, ensuite, c'est une étape qui est facultative, on n'est pas obligé, mais que moi, j'aime bien faire, là, c'est d'expliquer le principe général du jeu, donc le feeling, qu'est-ce que ça va m'apporter, ce jeu-là. Puis déjà, en fait, ça apporte certaines informations, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant. Ça apporte des informations, déjà, si les gens disent « Hi, moi, j'ai déjà joué à ce genre de jeu-là, puis j'aime pas ça », ben, tu sais, ça nous donne déjà une information de « Bon, est-ce que je vais changer ou je vais essayer de la convaincre, pareil, de jouer à ce jeu-là parce que je pense que celui-là peut l'aimer, tu sais. » En tout cas, et on voit aussi, est-ce que les gens ont déjà l'air de comprendre vers où ça s'en va. En tout cas, ça peut nous donner, nous aiguiller sur la suite de nos des explications. Fait que, en fait, la première étape, donc la deuxième étape, qui est avant de vraiment commencer à expliquer les règles en tant que telles, installer le jeu. Donc, installer le jeu sur la table, ça va être beaucoup plus facile de comprendre quand on regarde les pièces elles-mêmes. Donc, on peut pointer des choses. Puis, c'est ça. C'est plus intéressant que quand on les place en même temps aussi. Donc là, finalement, on connaît le jeu, on l'a installé. Donc, on est prêt à commencer les explications. Première étape, toujours. Donc, quand on commence vraiment les explications, dire l'objectif, le but du jeu. Donc, ça, c'est universel. Si tu commences à expliquer un jeu puis que tu n'as pas dit le but, puis ça m'arrive, je vais être honnête avec vous, c'est toujours une des premières questions. Okay. Puis là, comment qu'on gagne? Ben, en fait, même si tu l'as déjà dit, tu vas l'avoir des fois, cette question-là, pareil. Ouais. Comment qu'on gagne déjà? Parce que c'est ça, c'est quoi le but? Parce que c'est ça, toutes les règles amènent vers ça. Parce qu'en général, les jeux... Puis en fait, il y a des jeux, d'ailleurs, le but n'est pas de gagner. Puis ça, ça change aussi. Si je vous explique Télestration, qui est un peu le jeu du téléphone arabe avec des dessins, je vous dis, le but, c'est d'avoir du fun. Mm-hmm. C'est pas de gagner. C'est ça. Alors que les jeux, en général, le but, c'est de gagner. Mais tu as des jeux aussi, donc le but, c'est de pas perdre. Mm-hmm. Donc, il y a un perdant au lieu d'avoir un gagnant. Puis ça, c'est important de le savoir dès le début.
On peut penser aussi de manière plus large. C'est quoi le but de Donjon Dragon? Hein? On se le fait souvent dire. Ça.
Oui.
Ben, c'est celui du satanisme. C'est le Hellfire's Club. C'est non, le but, c'est d'évoquer Satan.
Mais effectivement, mais Donjon Dragon, c'est pour ça qu'on parle de Session Zero. Parce que Donjon Dragon, c'est un type de jeu qui est très ouvert. Puis il y a plein de façons de jouer. Puis c'est important qu'on s'entende ensemble sur de quelle manière on va jouer. Puis c'est un peu ça qu'on fait aussi en disant le but du jeu. Ben, ça aide à comprendre toutes les règles qui vont venir après. Mais ça aide aussi à se mettre sur le même. Donc au même niveau, on a peut-être la même idée de c'est quoi qui s'en vient. Donc première étape, dire le but, l'objectif du jeu. Donc ensuite, comment est-ce qu'on se rend à cet objectif-là? Donc ça, en fait, c'est plus une direction générale. Donc ce qu'on veut, c'est toujours dire les choses qui nous amènent vers cet objectif-là. Puis ça, c'est ce qui va avoir du sens pour les gens aussi. C'est souvent la première affaire que je dis dans une règle. C'est pas, je pense par exemple au jeu Century, dans lequel l'objectif, c'est d'avoir 5 golems, de faire le plus de points possible. Donc, en fait, quand la personne qui a le plus de points possible va gagner, comment qu'on fait des points? On va acheter des golems. Donc, comment est-ce qu'on fait pour acheter des golems? On va dépenser des ressources. Donc, tu vois, c'est vraiment d'y aller dans ce sens-là. Donc, c'est quoi votre objectif? Qu'est-ce qui amène à cet objectif-là? Puis, qu'est-ce qui amène à ce qui amène à cet objectif-là? Tu sais, c'est ça. Fait que de cette manière-là, les gens vont beaucoup plus comprendre.
Faut pas hésiter à répéter non plus, j'imagine.
Non, ça, effectivement. Donc, c'est important, en fait, quand les gens ont des questions, on peut répondre à la question tout de suite. Mais des fois aussi, ça peut être une bonne chose de dire « je vais y revenir plus tard mm-hmm. ». Parce que justement, quand on a une façon d'expliquer le jeu, une technique, la personne va poser une question que tu dis « je peux répondre à ta question, mais tu ne vas pas la comprendre dans le fond ». Parce que ce qui est important, c'est qu'il faut toujours s'assurer que quand on donne une information, que la personne possède déjà tout ce qu'il faut pour comprendre cette information-là. Puis des fois, les gens posent des questions, puis t'es comme, ben, tu peux pas encore comprendre parce qu'il te manque des détails avant de pouvoir comprendre ça.
Effectivement, si je te dis, tu gagnes en ramassant 5 morceaux de blé, OK, mais comment on ramasse ça, du blé? Ben là, on peut facilement perdre le fil.
Oui,
de
c'est
la
ça. Puis en fait, on peut se faire ramener. Puis il y en a des fois des gens qui sont très, très poseux de questions. Puis finalement, ils peuvent t'amener à expliquer le jeu d'une manière pas optimale parce que, avec leurs questions. Parce que les autres, ce qui leur vient en tête, c'est ce qu'ils voient, mais c'est pas nécessairement ce qui est le plus important pour bien comprendre, en tout cas. Mais des fois oui, des fois c'est important de répondre à la question, mais c'est important de le dire au moins comme, ah oui, j'y reviens plus tard, c'est une bonne question, mais j'y reviens tantôt. Fait que c'est ça, c'est un peu le principe général de comment qu'on va expliquer le jeu. Après ça, on y va toujours du plus général avant d'aller vers le plus précis. Donc là, justement, si je reprends l'exemple de Century, donc la première étape que je vais faire, c'est quoi qu'on fait. Donc là, ça, c'est le but, justement. OK, on va aller chercher, on va dépenser des cristaux pour acheter des golems. Ça, je le montre normalement en même temps aux gens. Là, on se comprend qu'on est en audio. Ouais. Mais après ça, on dit, OK, maintenant, c'est quoi un tour de jeu? Donc, on dit toujours le tour de jeu avant de rentrer dans les détails. Donc, c'est quoi? Ça ressemble à quoi un tour de jeu? Un tour de jeu, c'est que tu fais une action. Donc, tu as plusieurs actions possibles. Tu fais une de ces actions-là. Après ça, c'est le tour du prochain joueur qui va faire une action. L'autre va faire une action, puis on fait ça chacun son tour. Et quand est-ce que ça finit le jeu? Ça finit quand, aussitôt que quelqu'un a 5 golems, le jeu se termine. Donc à ce moment-là, il faut, c'est là qu'il y a le plus de points qui va gagner la partie. Donc tu vois, je répète encore l'objectif du jeu, ça je le fais souvent. Donc c'est de rappeler justement le tour. Fait donc comment on se rend à cet objectif-là? Puis là, après ça, le tour de jeu, puis les mécaniques importantes. Des fois, il y a certains jeux qui ont une mécanique qui est centrale, puis qui est plus compliqué à comprendre pour certaines personnes. Donc, je pense, par exemple, à la mécanique de draft, dans laquelle on va avoir un certain... donc, on va avoir des cartes dans nos mains, on va en choisir une ou plusieurs, puis après ça, on va les donner à la personne à notre gauche qui va en choisir aussi. Ce qui fait qu'on se fait passer par des cartes par la personne à notre, qui est à notre droite, puis on va choisir de ces cartes-là qu'on va passer à gauche. Donc, ça, c'est une genre de mécanique qui est très centrale dans plusieurs jeux, puis c'est important que les gens comprennent cette mécanique-là avant même d'expliquer quoi que ce soit d'autre dans les détails. Donc ça, c'est important, toujours expliquer c'est ça, ces mécaniques-là avant encore de rentrer dans les détails. Donc le tour de jeu, les mécaniques centrales au jeu. Puis là, après, là, on rentre dans les détails. Donc justement, comme dans l'exemple de Century tantôt, donc là, on va dire c'est quoi les autres actions possibles. Donc on peut jouer une carte de notre main. Donc là, je joue une carte. Là, je rappelle encore le tour de jeu en même temps. Donc je joue une carte, mon tour est fini. C'est le tour du prochain. Je fais ce qui est écrit sur la carte, c'est le tour du prochain. Puis je vais revenir à c'est quoi que les cartes veulent dire. Ça, je fais ça aussi. Parce qu'encore là, c'est encore du détail. Fait que là, OK, fait que là, je peux jouer une carte. Après ça, je peux aller acheter une nouvelle carte. Donc, quand j'achète une nouvelle carte, ça fait ça. Je peux acheter un golem. C'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs tantôt. La première chose que je vous ai expliqué, c'est ça. Fait que puis là, tu peux leur dire quand même. Puis tu peux aller... tu peux reprendre les cartes dans tes mains.
Exact. Parce qu'au final, ça, c'est Century, ça. C'est du card building, ultimement.
Oui, c'est ça. C'est effectivement...
deck building.
En fait. Oui, c'est ça. C'est un petit peu différent des deck building, mais un petit peu le principe deck building. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça l'idée. Fait que là, justement, puis après ça, tu vas aller dans les détails. OK, maintenant, les différentes cartes. Quand tu joues une action, les cartes, c'est quoi que ça fait? Ben là, c'est sans les dessins, je ne vous le ferai pas. Là. Mais on regarde les dessins sur la carte. OK, fait que là, tu peux faire telle affaire. Puis, une fois que tu as tout expliqué ça, finalement, tu as déjà tout expliqué le jeu à ce moment-là. Tu as expliqué les détails. Puis, dans un jeu plus complexe, bien là, c'est sûr que tu vas avoir plus de détails. Mais toujours, c'est parce que c'est important de comprendre justement tes différentes possibilités avant d'y aller après ça dans le « OK, mais qu'est-ce qui m'amène dans ces possibilités-là? » c'est ça, dans ces détails-là. Puis là, après ça, tu fais un retour, un recap de tout le jeu, justement, d'un tour de jeu, de quand est-ce que ça finit, puis de qu'est-ce qui nous fait gagner. Donc, on n'en dit pas tous les détails une deuxième fois, mais ça peut revenir en cours de partie aussi. Ouais. Fait que ça, c'est pas mal. Donc, pour recapper, donc, un, on apprend le jeu. Deux, on va installer le jeu. Des fois, surtout si c'est un jeu plus compliqué, on peut même l'installer avant que les gens arrivent. Ça peut être une possibilité. Après ça, on peut expliquer le principe général du jeu, mais ça, c'est plus pour avoir le feedback, vérifier si c'est vraiment ça que les gens, ça va leur tenter de jouer. Puis là, après ça, c'est ça. Donc, c'est toujours objectif. Comment se rendre à cet objectif-là, les mécaniques importantes, toujours vers le gros, du plus gros au plus petit. Puis après ça, on rentre finalement dans les détails.
C'est des éléments aussi que quand tu l'expliques, ça a l'air évident. T'sais, on se dit « Ah, mais oui, mais c'est des évidences. » Sauf que non, en fait, ce ne sont pas des évidences. Pensez au nombre de fois où vous avez fait des parties de jeux sur société avec vos amis. Puis vous avez fait « Ah, oh, non, attends, c'est pas... Ah, oh, non, je me suis trompé, c'est pas ça vraiment la règle. » Ben, C'est juste un petit effort supplémentaire qui demande quelques minutes au final, mais qui font que tu perds pas une heure à tassiner avec ton ami ou à faire « Ah non, mais je pensais que c'était ça. Ah ouais, mais là, on a joué avec cette règle-là. Fait que là, est-ce qu'on finit la partie? » Bien instaurer les bases.
C'est ça,
puis n'importe quel professionnel de n'importe quel domaine va vous le dire. Ils sont toujours en train de revoir leurs bases parce que si t'as pas les bases... tu peux rien faire.
Non, c'est ça. Puis pour optimiser le plaisir aussi, tu sais, on veut... L'idée, c'est de passer un temps le fun ensemble. Fait que justement, si tu... Le bout de pas le fun, ben tu le fais avant pour que quand il vient le moment de jouer, ben là, ça soit juste le bout de le fun. Mm-hmm. Tu sais, puis c'est un peu la raison pour laquelle les gens viennent d'un pub ludique parce que ça lui tente pas de faire le bout, apprendre les règles. Fait que moi, je les explique à la place. C'est comme ça, ils ont pas besoin de les apprendre.
Exact. Tu fais le bout de pas le fun, comme ça, ils peuvent passer directement ben non, à
c'est
ce
ça. Puis bon, ben, moi, j'aime ça, mais justement, c'est pas tout le monde qui aime ça, apprendre des nouvelles règles. Mm-hmm.
Formidable. Est-ce que tu avais un dernier conseil, une petite information juteuse à nous donner ou une petite anecdote, je sais pas, moi, toujours dans la bienveillance, évidemment, mais un monsieur ou une dame qui comprenait vraiment, mais vraiment pas la règle, puis t'as été obligé soit de la tweaker, la modifier pour qu'il soit en mesure de la comprendre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir fait quelque
chose? Oui, ben en fait, ça m'arrive surtout avec les enfants qui tirent de l'énergie parce qu'ils changent de jeu à tous les 5 minutes, les enfants. Fait que là, tu sais ça, à un moment donné, t'arrives au bout là, de tes jeux qui sont... surtout quand il est plus jeune, tu es comme, ben là, les jeux qui fitent pour un flow de 6 ans, là, j'en ai pas de temps avec ça. Là. Fait que là, à ce moment-là, tu peux sortir un jeu, ignorer certaines règles, ou tu commences à expliquer le jeu, puis là, tu vois que ils ont déjà de la misère. Tu es comme, ben, il y a une règle de plus, mais dans le fond, m'a juste pas à dire. Puis ils auront pas ce détail-là, puis dans le fond, c'est pas grave, ils vont avoir du fun pareil. Parce que le but, on se rappelle, c'est d'avoir du plaisir. Mm-hmm. Fait que moi, je suis très, très pour là, modifier les règles pour notre groupe, pour qu'est-ce qui fit le plus.
Hey, on joue, là, c'est sérieux.
Ben non, c'est ça. T'sais, moi, ma version de Catan chez nous est très modifiée. Là. J'ai rajouté plein d'affaires parce que je trouvais qu'il y avait des faiblesses dans le jeu, des longueurs, mais t'sais, c'est ça. Fait que je vous encourage fortement à modifier les jeux. Si vous voyez une règle que vous trouvez pas le fun, ben, mettez-le pas. C'est aussi simple que ça.
Ouais,
tous les jeux peuvent pas être parfaits pour tout le monde, t'sais, c'est ça.
C'est un peu comme un Donjon Dragon.
Ouais,
là, c'est un règlement que tu veux pas avoir, tu le mets pas. Là, c'est aussi
ouais,
simple
ben,
que
le,
ça.
Le truc du poids dans les sacs, puis si t'as telle quantité de force, tu peux porter ce poids-là. Je veux pas faire de la gestion d'inventaire, je veux faire une aventure. Mais
les règles précises, c'est important dans un contexte de compétition où ce que là, tout le monde doit jouer avec les règles. Je pense à Magic, mettons. Ouais. Parce que là, justement, quand t'es en compétition, c'est ça, t'as besoin des règles précises, claires, que c'est les mêmes pour tout le monde.
En même temps, ça, Jérémy, là, pour ton troupe, là, c'est facile, tu lui donnes un sac sans fond au début, problème réglé.
C'est réglé.
C'est ça. Pas besoin de calculer ça.
Exact. Mais ça me fait penser justement parce que quand je fais des parties de Donjons Dragons, généralement, j'explique pas tout à fait les vraies règles à mes nouveaux joueurs. Ça m'est arrivé. Ben en fait, je suis très souvent, parce que je joue avec des jeunes, là, je suis très souvent le DM d'initiation au Donjons Dragons pour eux. Fait que souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer tout le principe de dégâts contondants, dégâts de feu, dégâts magiques, tout ça. Je leur expliquerai pas, je leur dirai juste pas parce que tu sais, si t'as une masse, ben généralement, c'est plus efficace sur le squelette que d'utiliser une épée parce que l'épée, c'est moitié dégâts, la masse. C'est de leur demander de faire trop de gestion, puis c'est qu'au travers de ça, ils doivent apprendre les règles, puis déjà, c'est pas toujours simple de leur dire le 16 te donne plus 2. C'est pas 16 plus 2, c'est que le chiffre 16 dans ta statistique d'extérité te donne plus 2.
Voilà,
il y a tellement de petits détails, de petits éléments qu'ils doivent apprendre que tout ce que je peux épurer ou que je peux faire à leur place, je le fais. C'est 16 qui donne plus 2. Hein?
16, ça donne plus 3, parce que c'est moins 10 divisé par 2.
Mes règlements par cœur, c'est ça. Oui, mes règlements par cœur, c'est seconde édition.
Non,
fait
c'est
que...
ça.
Moi j'aime m'aider du livre.
Mais dans tous les cas, ton point était très pertinent, tu sais, comment que... c'est ça. Puis en fait, on n'est pas obligé non plus... s'il y a certaines règles qui ne sont pas nécessaires à comprendre le jeu puis à commencer le jeu, quand on est avec, parce que moi, je suis dans un contexte où j'explique les jeux avant puis il faut que les gens jouent sans moi, mais il y a des règles que tu peux dire après. Tu sais, ouais, comme au moment où ça sort, tu peux l'expliquer, pas besoin de l'expliquer avant.
Exact.
Ceci vite fait, sur le jeu de table, là, sur le jeu de rôle, là, un système qui est vraiment le fun pour avoir du gameplay puis très peu de règlements, là, c'est le système Fate qui est en open. Là, vraiment, c'est aller voir là, la façon que tu mets tes caractéristiques par rapport au background des autres personnages. Aussi, ça permet de créer une histoire dès le début. T'expliquer ça vraiment, c'est un très beau système.
Il y en a tellement.
Formidable. Et donc, moi, ce que vous entendez, c'est la musique qui nous annonce que l'émission est sur le point de terminer. Et oui, déjà. Donc, je veux entendre tous nos auditeurs faire un... Oh, pas déjà.
Toujours trop beau.
Mais si vous l'avez fait, ben, je suis désolé, je vous ai pas entendu, mais je vais quand même saluer l'effort. On se dit à la semaine prochaine où moi, je vais vous parler plus en détail de comment faire une partie de Donjons Dragons réussie et surtout comment initier ses amis à d'autres systèmes de jeu. Parce que Donjons Dragons, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas l'entièreté de l'expérience des jeux de rôle sur table. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres.
Merci.
On se dit donc à la semaine prochaine pour un autre épisode des Kiwi et des Nerds avec toujours nos chroniqueurs de feu et moi à l'animation. Merci à tous. Au revoir.
Vous écoutez Schiste 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Schiste 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe vanille au bout du pied.
C'est la main! Frappé solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes cheesiennes? Visite le www.cheese.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Vous écoutez Radio Futura.
Hi, my name is Stephanie. In Radio Futura, you listen to my dad.
Digan lo que digan, somos la número uno.
Radio Futura.
La mejor FM, más que las demás.
Life is a medium in which we all must travel. And in this medium, there are many obstacles. Obstacles of past,